C'est l'occasion pour moi de saluer des personnes qui sont nouvellement venues. Et je salue particulièrement un vieux copain, compagnon de route de la première heure de l'église. C'est Jean-Christophe Chamard avec sa famille, avec Florence, avec Jacques. Et où est Gabriel ? Et de l'autre côté, d'accord. Donc Jacques, tu es avec nous les grands. Hein. Donc... Ah, d'accord. Ok. En tout cas, c'est avec cet homme qui avait une vision pour l'Église que nous avons démarré dès notre salon. Et le laisser quitter, laisser partir pour Le Mans, pour moi, ça reste toujours une petite, un petit vide dans mon cœur. Hein. Mais vous êtes bien intégrés au Mans, vous êtes actifs et ça fait toute notre joie. Voilà. Nous sommes... arrivé à la fin de notre étude sur l'épître aux Thessaloniciens, au cinquième chapitre, et on va terminer aujourd'hui cette lecture. Le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la sainteté pour l'esprit, la sainteté pour l'âme, la sainteté pour le corps et la sainteté pour la vie en Église. Ça vous intéresse? Très bien, donc vous faites comme moi. C'est à quoi j'aspire? La sainteté dans ma vie et dans l'être que je suis. Et bien sûr aussi une sainteté dans la vie de l'Église. Le texte est tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 12 et jusqu'à 24. Et j'ai deux tableaux. Donc, merci pour quelqu'un ou une personne qui se lève et nous lit à haute voix ce texte comme nous avons l'habitude. Qui voudrait nous faire la lecture?
Soyons en paix entre vous, nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, et recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.
N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera.
Merci pour ces lectures. Nous sommes arrivés à la fin de cette lettre où c'est l'apôtre Paul qui donne les dernières exhortations, les dernières recommandations ou des vœux, hein, comme on dit, pour une vie saine, une vie chrétienne saine et de sainteté dans l'assemblée de Dieu. La première chose que j'aime bien souligner, c'est qu'ils nous disent « Soyez en paix entre vous ». Vous dites « Mais c'est en Église ». En Église, nous sommes tous en paix les uns avec les autres. Qui a connu une Église dans laquelle se sont produits des querelles, des mauvaises paroles, des choses qu'on dit dans le dos de quelqu'un, des petites manipulations pour faire tomber quelqu'un, dénoncer quelqu'un? Mais c'est pas dans l'Église tout ça. Bon, je crois que certaines personnes, avec un sourire, disent « Ça rentre aussi facilement dans l'Église que c'est présent dans notre vie. » Et pour cela, l'apôtre met en garde de préserver quelque chose qui est précieux. C'est la paix. La paix est un fruit même du Saint-Esprit. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, et en toute matière, dira plus tard dans le deuxième épître l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Vivre en paix, c'est vivre en harmonie. Vivre en harmonie en présence de celui qui est appelé par les prophètes de l'Ancien Testament le prince de paix. Le prince de paix, Jésus. Est-ce que d'autres personnes auraient envie de devenir prince et princesse de paix au sein de l'Église? Nous prenons de l'exemple que Jésus donne et nous voulons le mettre en pratique. Donc si Jésus est appelé notre paix, en Éphésiens 2, 14, faisons aussi notre part à ce que notre Église puisse vivre harmonieusement en paix. Parce que la paix, pour l'homme, n'est pas un état naturel. Pour cela, il faut avoir, envie de l'instaurer. Il faut parfois faire même un effort, même un grand effort, hein, de le vivre. Parce que ça, notre nature humaine ne le produit pas naturellement. Être en paix résultant d'un effort de l'obéissance. Je voudrais être une personne paisible au milieu de mon assemblée. Je voudrais être une personne paisible dans mon foyer. Je voudrais être une personne paisible sur le lieu de mon travail. Que la paix soit dégagée, la paix que Dieu a mise dans ma vie, puisse être dégagée dans la sphère dans laquelle je vis. Être en paix résulte en effort d'obéissance, jamais de l'indifférence ou d'un laisser-aller. La paix ne vient pas tout seul. Il faut vraiment le cultiver. Deuxième recommandation, consoler, réconforter ceux qui sont abattus. Verset 14. Pour consoler une personne, il faut avoir été soi-même consolé. Ceux qui ont connu cette grâce, cette venue de Dieu vers ma personne, qui m'a pris en charge, qui a commencé à me guérir, à me rétablir, à me consoler, à me reconstruire, si moi j'ai vécu cela, moi je suis appelé de consoler d'autres personnes qui sont dans la peine. Il faut avoir été donc soi-même consolé par Dieu pour pouvoir comprendre la cause du découragement qui est celui des personnes dans les difficultés. Comprendre aussi la nature des blessures qu'ils vivent et qu'ils vivent douloureusement. Je crois dans les derniers mois, notre Église a donné un bon exemple dans la consolation, particulièrement aux personnes abattues par leur situation de vie. C'est une belle chose pour une Église, consoler, comme c'est une belle chose d'être consolé, recevoir une consolation. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous avons nous-mêmes reçu de la part du Seigneur. Et les amis, ça s'appelle tout simplement le partage. Parce que si le Seigneur m'a encouragé, si j'ai reçu la consolation pour mes peines, maintenant c'est à mon tour de consoler ceux qui vivent autour de moi et aussi au sein de l'Église une détresse. Et notre recommandation, aider, soutenir les faibles. Être à côté des faibles, leur venir en aide, ne consiste pas à se montrer toujours plus fort que d'autres. Montrer sa propre force, regardez comment je maîtrise. Mais c'est partager cette force. Je te donne de ma force afin que tu puisses être refortifié de ta part. Des personnes qui vivent des situations de maladie, de longue maladie. Merci Stéphanie pour ton témoignage, n'est-ce pas? Aider, soutenir les faibles. L'Église est faite pour les faibles. C'est dans l'Église, les faibles deviendront forts. Grâce à la force qui est en Jésus. Vous trouvez la force ici et pas ailleurs. Quand je dis ici, pardonnez-moi, dans l'Église du Christ. Hein? Voilà, bon, faites prudent là. Nous ne sommes pas si exclusifs. Mais nous tenons quelque chose d'exclusif. Cette force qui va mettre et remettre debout les faibles. À l'Église, vous avez le droit d'être faible. Partout, peut-être, vous êtes en apparence. Vous devez montrer qu'est-ce que vous êtes compétent, fort, jamais avoir peur. Écoutez, si vous voulez souffler, venez à l'Église. C'est un super endroit où les faibles sont reçus pour être fortifiés par le Seigneur. Romains chapitre 15, verset 1, nous lisons, « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses. » Donc, supportons ceux qui sont faibles par moment ou un long moment. Qu'importe le temps de ta faiblesse, à l'Église, tu es la personne bienvenue. Une autre recommandation, ne rendez pas le mal pour le mal. Verset 15. Là, vous dites, oh, mais pas dans l'Église. Oui, mais ça, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Ça revient un peu sur cette première manière de ne pas vivre en paix à l'Église. Vous vous rappelez, ne rendez pas le mal pour le mal. La grâce ne demande jamais de rendre le mal pour le mal. Pourtant, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Tu m'as fait mal, tu vas mal le payer. Qu'importe la formule chrétienne que vous trouverez. Hein. Mais en général, notre premier réflexe, c'est « Tu m'as fait mal, attends, mon heure viendra. » Rendre le mal pour le mal vient d'une loi de l'Ancien Testament qui s'appelle la loi du talion. Et cette loi est finalement une loi qui voudrait protéger contre une vengeance aveugle. Vous connaissez ça? Quelqu'un fait mal à quelqu'un, lui, il va lui rendre doublement le mal. Donc deux fois doublement rendu par la suite. Tiens. Et c'est une puissance infinie. Et c'est exactement cette loi-là qui dit, tu ne vas pas dépasser le mal, tu ne vas pas ajouter au mal qu'on t'a fait. Jésus va beaucoup plus loin. Il dit, tu ne vas pas simplement rendre ce que tu considères juste, tu ne vas rien rendre. Tu ne vas rien rendre. Ce n'est pas l'égalité, tu me fais mal, je te fais mal. Tu me fais mal et moi, je vais te répondre en bien. Ça, personne ne peut le faire naturellement. Ce n'est pas dans les tripes. C'est même pas dans notre conception des choses. De notre façon de penser de ce qui est juste. Le juste, c'est le juste retour. Et l'envie d'ajouter. Voilà. Jésus a aboli cette loi en disant à ses disciples, aimez même ceux qui sont vos ennemis. Aimez ceux qui vous font mal. Ça, c'est une force que uniquement peuvent connaître les chrétiens habités par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un réflexe naturel ni humain. Et par la suite, recherchez toujours le bien. Cette attitude est propre à celui qui est prêt à discerner non ce qui est mauvais, mais de ce qui est bon. Et là, les amis, certaines personnes ont un problème de vue. Il y a certaines personnes qui ne voient que ce qui est mauvais. Que mauvais. Ils ont l'œil pour. Ils ont l'œil, et rien passe sans qu'il découvre le mal, le mauvais. Toujours en train de critiquer. Ils ont l'œil pour. Et peut-être, nous devons changer, ou certainement, nous devons changer notre regard, notre attitude de regard. Le mal, le mauvais, ça existe, certes. Mais est-ce que tu as aussi vu le bien? Est-ce que tu as aussi vu le bien? Ouvre grandement tes yeux et cherche ce qui est bien. Et par la suite, tu verras beaucoup moins ce qui est mauvais. Parce que ton regard, ton cœur, toute ton attention est tournée vers ce qui est bien pour l'autre. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange, dit l'apôtre Paul aux Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. C'est la manifestation d'une bonne santé spirituelle, d'une bonne santé mentale et d'une bonne santé morale. Oui, voilà, mentale et morale. Ce qui est bon pourrait nous échapper si nous ne le cherchons pas dans les domaines de nos activités, soit dans nos rapports mutuels dans l'assemblée, soit dans le cadre familial ou professionnel. Le bon et ce qui est bien nous échappent trop facilement parce que le mal et le mauvais est plus criant, semble-t-il, inversant les valeurs. La recommandation du verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Quand la dernière fois, vous étiez toujours joyeux. Pour moi, la joie, c'est, je dirais, variable. Hein, à des longueurs très variées. Hein. Je connais aussi la joie qui se met en route, qui s'éteint tout de suite. Mais cette recommandation, soyez toujours dans la joie. La parole de Dieu nous invite à nous réjouir, d'être des gens joyeux. Plus qu'une exhortation, c'est un véritable commandement, car la joie dépend de quoi, d'après vous? De quoi dépend la joie? De l'obéissance. Bien. Non, j'ai voulu tout simplement voir qui dort. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. La joie, normalement, c'est un sentiment, c'est une émotion, tu le contrôles plus ou moins bien. Ça vient et ça va. Ça se va. Ici, la joie, c'est non pas seulement une exhortation, même un vrai commandement. En Philippiens chapitre 4, verset 4, nous trouvons là une phrase très, finalement deux, très concentrée sur ce qui est la joie. Réjouissez-vous, impératif, réjouissez-vous, commandement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un étudiant en théologie faisait son examen oral sur le Nouveau Testament. Et le thème, c'était l'épître aux Philippiens. Donc le professeur interroge l'étudiant en disant, pourriez-vous nous sortir un thème majeur de l'épître aux Philippiens ? Il cherche. La joie. Pourriez-vous approfondir un peu votre pensée, réponse? Silence. Stress. Chez l'étudiant et aussi chez les profs. Et puis l'idée. Oui, je répète, réjouissez-vous. On ne peut rien ajouter que de ce qui est déjà dit. C'est une recommandation. La joie, en plus, c'est un fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Mais le fruit de l'Esprit, dit l'apôtre Paul, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Et tout cela est un fruit qui pousse dans notre vie avec Christ, dès notre conversion. Donc nous avons tous besoin d'être joyeux pour accomplir nos tâches. Sinon, la force va bientôt nous manquer. La joie de l'Éternel, dit Néhémie, est notre force. Il est évident que nous ne pouvons pas nous réjouir de toutes les circonstances de notre vie. On ne se réjouit pas de toutes les circonstances de notre vie. Parce que l'épreuve existe. Nous ne sommes pas aveugles ni insensibles. Mais même au milieu des difficultés, on peut trouver des sujets de joie si on les cherche dans le Seigneur et dans la parole. Chercher de ce qui est bien au milieu de ce qui est mauvais, c'est chercher aussi la joie dans tout ce qui pourrait rendre triste. La recommandation du verset 17, prier sans cesse. Là, j'ai eu quelques difficultés parce que prier beaucoup, je crois que j'ai des choses à apprendre encore. Mes conversations avec Dieu sont nombreuses, mais plutôt brefs. Je me rappelle nos enfants en voiture, quand les filles étaient petites et on partait en promenade ou en voyage. Elles disaient, « Papa, il faut encore prier. » Je dis, « D'accord, on va prier. » Mais on roulait déjà. « Mais papa, tu ne vas pas fermer les yeux, hein ?» Une remarque tout juste d'ailleurs. Prier sans cesse. Quelqu'un a dit, on se réjouit davantage quand on prie davantage. Pourquoi ? Parce que la prière nous soulage. Nous soulage déjà par tout ce que nous portons en lourd. Et voilà quelques bagages qui peuvent être très lourds à porter. Comme la joie, la prière est une nécessité. Elle permet de nous ouvrir notre cœur et notre âme à Dieu. Et aussi par l'écoute dans la prière. Écouter sa volonté, connaître sa volonté. L'apôtre nous demande de prier sans cesse. Qu'est-ce que cela signifie, prier sans cesse? Est-ce que nous devons continuellement prier sans nous arrêter? Je crois qu'il s'agit plutôt d'avoir un esprit de prière. D'être prêt à tout moment de nous tourner à Dieu, tourner les yeux vers le Seigneur, on vient le chanter en premier chant. Non pas seulement dans les temps de nécessité, mais en toutes circonstances. Pas pour toutes circonstances, mais en toutes circonstances. Là où tu vis, prie. Cela est possible parce que le ciel est toujours ouvert. Et la communication est illimitée. Prier sans cesse, c'est aussi profiter de chaque moment libre pour s'adresser à Dieu. Nous sommes exhortés à prier les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Combien de fois, quand je suis en voiture, ça m'arrive très régulièrement en voiture parce que tu n'as rien d'autre à faire que conduire, que je pense à vous. Je pense aussi à vous quand je suis dans mon bureau. Je pense à vous quand j'ouvre ma Bible. Je pense à vous quand je prépare une étude biblique. Je pense à vous quand je prépare une prédication. C'est génial. Continuellement penser à d'autres personnes avec lesquelles nous marchons ensemble. La prière d'intercession est la meilleure expression de notre amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Tu pries pour moi, donc tu m'aimes ? Certes. Sinon, je ne priais pas pour toi. Prochaine exhortation, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. C'est un peu dans la suite des pensées que je viens de développer. La joie conduit à la prière et la prière nous conduit à la reconnaissance. Il ne nous est pas demandé de rendre grâce pour toutes choses, mais en toutes choses. Parce que, et ça c'est la raison, et l'apôtre Paul l'écrit en Romains chapitre 8, verset 28, « Tu le crois ou tu ne le crois pas ? Mais toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. » Tu dis, « Toute chose travaille pour le bien ? » aussi ce que je dois subir maintenant, ça travaille pour mon bien. Mais oui. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu contrôle. Et rien ne puisse arriver ce qui n'est pas passé devant le trône de Dieu. Dieu sait d'avance ce que nous allons vivre. Nous rentrons dans cette situation et Dieu contrôle. C'est quelque chose qui me rassure profondément parce que dans combien de situations dans ma vie, je ne contrôle plus rien. Ou en tout cas, j'ai l'impression. La joie, la prière, la reconnaissance sont donc trois caractères du chrétien inséparables. La joie, la prière et la reconnaissance. Et ce caractère est accompagné des mots toujours, accompagné de sans cesse et en toutes choses. La prochaine recommandation, nous avons vu cela lors de notre formation sur le Saint-Esprit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. À cette jeune église de Thessalonique, l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'Esprit Saint en vous », verset 19. Donc c'est une expression figurée qui compare l'Esprit de Dieu avec une flamme ou avec un feu susceptible de s'éteindre. Comme un souffle éteint une chandelle, notre comportement, notre façon de penser et notre façon d'agir peuvent entraver l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Si Dieu est tout-puissant, mais tu peux le rendre impuissant par le simple fait que tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi. L'apôtre Paul pense ici plutôt aux manifestations du Saint-Esprit de Dieu dans l'Église, c'est-à-dire n'éteignez pas les dons du Saint-Esprit qu'il vous a donnés. On peut éteindre les dons du Saint-Esprit en ne permettant pas certaines expressions dans l'Église. Dans certaines églises, il est formellement interdit de prier en langue. Nous ne sommes pas charismatiques à ce point. Mon œil, tu n'es pas suffisamment Esprit Saint à ce point. Dans notre église, personne ne va se lever et dire une parole de prophétie. On ne voudrait pas ça. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est le pasteur. Ok? N'éteignez pas ce que le Saint-Esprit voudrait communiquer à l'Église. N'éteignez pas le Saint-Esprit. On atteint par des formes invariables au sein d'une assemblée qui ne laisse aucune place aux manifestations du souffle divin. N'éteignons donc pas le feu de Dieu qui est le Saint-Esprit parmi nous. Dans la même lignée, la prochaine recommandation, ne méprisez pas les prophéties. Verset 20. Mépriser les prophéties signifie qu'on les compte pour rien ou qu'on les néglige. Aujourd'hui, le ministère des prophètes consiste à appliquer la parole de Dieu aux besoins que l'Esprit de Dieu leur fait discerner dans l'Église. Le prophète peut être employé par l'Esprit de Dieu pour avertir d'un événement futur, certes, mais la plupart du temps, celui ou celle qui a le don de la prophétie, c'est un homme ou c'est une femme qui parle aux hommes pour l'édification, pour l'exhortation et pour la consolation. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. L'enseignement de l'apôtre avait fortement marqué les jeunes croyants auxquels il s'est adressé pendant son séjour à Thessalonique. On peut penser que certains d'entre eux, maintenant que l'apôtre Paul n'est plus là, n'attache pas grande importance à ce que les frères et sœurs qui composent désormais l'Église disent sous l'influence du Saint-Esprit. Ce n'est pas une parole de l'apôtre. Tais-toi. Ou j'attends plutôt que Paul me dise quelque chose que tu me dises quelque chose. n'ayons pas une préférence pour une personne, même si elle nous a marqué. Le Seigneur enverra d'autres personnes d'après, qui vont continuer dans la même lignée, inspirer d'encourager l'Église dans l'enseignement. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Quand nous allons terminer notre ministère ici à Nantes, pour un certain temps, l'Église n'aura pas de pasteur, parce qu'il n'y a pas de vocation suffisante au sein de notre fédération d'Église. Vous allez vous prendre en charge. Certaines ont déjà reçu des dons qui les qualifient pour diriger l'Église. Certains ont reçu des dons pour apporter la parole. Certaines personnes ont des dons divers. Que personne dise un jour ici, si ce n'est pas Olaf qui nous le dit, on ne va pas t'écouter. Ce n'est pas parce que moi, j'ai commencé à vous enseigner que vous devez négliger ceux qui viennent d'après moi. D'ailleurs, c'est une histoire continuée dans l'Église. Le renouvellement des générations desquelles Dieu se sert pour construire l'Église. Là, c'est carrément un avertissement. N'ayez pas une préférence pour votre père spirituel, pour votre premier pasteur, ou pour quiconque. Ne méprisez pas les prophéties. Par contre, examinez toute chose. Le terme examiner ou éprouver signifie discerner, mettre à l'épreuve ou scruter dans le but d'approuver. Si quelqu'un dit une parole à l'Église, si vous dites cette parole est véridique, vous dites Amen. Mais il se peut aussi que certaines choses sont dites ou enseignées à l'Église au titre « J'ai un doute là. Est-ce qu'on pourrait le revoir comment c'est écrit dans la Bible ?» Examinez toutes choses. Les chrétiens de la ville de Bérée, dans le livre Actes chapitre 17, l'ont bien mis en place. Ils ont examiné chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul disait et ce que ses accompagnateurs disaient et enseignaient étaient conformes avec ce qui a été écrit. C'est la démarche constructive d'une assemblée qui écoute et qui examine une parole. D'ailleurs, c'est une valeur protestante qui dit « La Bible se lit à... » plusieurs. La Bible se lit à plusieurs. Chacun a reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit parle à chacun. Donc, écoutez-vous ensemble et examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, ce qui est la prochaine recommandation. Quand on parle dans l'Assemblée, il est possible, et chez moi c'est assez fréquent, quand j'expose la parole de Dieu, que certains mots ou certaines phrases m'échappent, ou pendant que je prêche encore, je me disais, mais comment les rattraper ces phrases? Des choses qui étaient pas bien dites, des expressions maladroites, des pensées qu'on regrette après ou pendant encore de la prédication. Surtout quand on parle beaucoup. Bon, j'en fais pas partie. Je suis un grand causeur. Et le problème des gens qui parlent beaucoup, ils pêchent beaucoup. En parole. C'est inévitable. C'est inévitable. Retenez de ce qui est bon. Comme auditeur, mais aussi comme lecteur, notre devoir est de retenir ce qui est bon. Au lieu de scruter et retenir ce qui était mauvais. Il est donc important d'examiner avec un esprit constructif de ce qui a été dit ou écrit sous peine de tout critiquer et finalement d'être incapable de retenir quoi que ce soit de bon. Et certaines églises souffrent de ce manque du bon parce qu'on est tellement au cheval Sur cheval ? À cheval. Ben, tu vois, une proposition. Je me disais, à un moment donné, ça va tomber. Hein. À cheval, à retenir ou à écouter uniquement ce qui était mal dit. Mais il y a plein de choses qui sont bonnes. Abstenez-vous de toute forme de mal. Verset 22. S'il faut tenir ferme au bien, nous devons avoir le mal en horreur, dit l'apôtre Paul en Romains 12, verset 9. Nous devons avoir le mal en horreur. Et c'est légitime d'avoir quelque chose en horreur à l'Église. J'en ai horreur. Ça m'énerve. Ça monte jusqu'à là quand je suis confronté à des formes mal. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est pas faite pour cela. Et ne veut pas l'accepter. Nous voulons nous abstenir de toute forme du mal. Au sein de l'Église, le mal doit être rejeté sous toutes ses formes. Et tout de suite, tout de suite. Ne laissez pas pourrir une situation. Mettez des paroles justes sur des comportements ou sur ce qui était dit et vous allez tenir loin le mal. Le mal peut se présenter sous les aspects les plus grossiers. Ça, c'est facile. Le mal qui se présente d'une manière grossière, tu vois, c'est facile à découvrir. Mais parfois aussi dans des aspects plus attractifs. Dans les versets 16 à 22, l'apôtre Paul indique la seule voie à suivre dans l'examen de ce qui est bon, ce qui est dit dans l'assemblée. Et la seule voie à suivre, c'est de cultiver un état spirituel caractérisé par la joie, par la prière et par la reconnaissance. Parce que contre ce trio, joie, prière, reconnaissance, le mal n'a pas d'arme. En conclusion, et je vais conclure avec les paroles de cette exhortation. Soyez en paix entre vous. Consolez, réconfortez ceux qui sont abattus. Aidez, soutenez les faibles. Ne rendez pas le mal pour le mal. Par contre, recherchez toujours ce qui est bien. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Surtout, n'éteignez pas l'esprit en vous. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. On pourrait dire une longue liste de recommandations, exhortations. Mais je dirais, c'est une bonne dernière parole à mettre dans cette lettre qui est déjà très positive que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Et ainsi, il termine, versets 23 et 24, « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Donc avec ces paroles, l'apôtre termine ses recommandations à cette jeune église thessalonique. Je me disais, ça serait aussi une bonne parole pour mon au revoir, mais ce n'est pas pour maintenant. Nous voulons prier. Prions. Ô mon Dieu, Dieu de paix, toi qui as fait ta paix avec nous par Jésus-Christ, sanctifie-nous, sanctifie-moi toi-même. Produis en moi ce que tu me demandes. Garde-moi tout entier. Esprit, âme et corps. Garde-moi de toute souillure, me préparant ainsi pour le jour de l'arrivée de Jésus-Christ qui est proche. Oui, tu es fidèle, mon Dieu, Et puisque tu as voulu m'appeler à te connaître, je compte sur ta fidélité pour achever en moi toute l'œuvre de ta grâce. Amen.